Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 4 février. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'étau se resserre autour de Didier Gayaguet, président de la Fédération des Sports de Glace. La ministre des Sports lui demande de démissionner, saisit la justice et affiche son soutien aux victimes. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Des résultats encore partiels de la primaire démocrate dans l'Iowa et déjà des surprises. Les femmes sont-elles vraiment les gagnantes de la réforme des retraites? Réponse dans ce journal. Un nouveau virus s'attaque aux tomates. L'alerte est lancée dans l'Hexagone. Et puis les sorties de ciné de demain avec un doc saisissant sur un jeune militant du Front National.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Quoique les maladresses se multiplient au gouvernement et dans la majorité dernière en date, l'allongement de la durée de deuil pour les parents qui ont perdu un enfant, qu'est-ce qui cloche dans la majorité? On pose la question au Benjamin du gouvernement macroniste de la première heure. Gabriel Attal sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le député La France Insoumise, Adrien Quatennens. Le standard est ouvert. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. Après des années de rumeurs étouffées et de sourires de façade, c'est un bras de fer médiatique qui s'est engagé hier soir entre une ministre des Sports, Roxana Maracineanu, bien décidée à briser l'omerta, et un président de la Fédération Française des Sports de Glace, Didier Gayaguet, qui reconnaît des erreurs, mais rejette la faute sur sa ministre de tutelle de l'époque. La parole de l'ex-patineuse Sarah Abitbol, qui a témoigné sur France Inter jeudi dernier des violences subies alors qu'elle n'avait que 15 ans, cette parole a bouleversé le monde du sport bien au-delà du patinage. L'ancien footballeur Vikash Dorazo a appelé hier soir à faire le ménage.
Moi, je pense qu'il aurait déjà dû démissionner avant que la ministre le lui demande. Je sens que maintenant, il va essayer de sauver sa peau. Voilà le monde dans lequel on vit, des vieux hommes qui dirigent les fédérations de sport depuis très très longtemps, qui sont là à vie et qui veulent pas quitter la place. J'ai du mal à penser qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Je suis obligé de me dire qu'il a protégé certaines personnes, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour protéger ces jeunes filles qui étaient victimes de graves violences. Et aujourd'hui, au lieu de démissionner, il essaie de renvoyer la faute aux uns et aux autres, notamment à Marie-George Buffet, qui, elle, a réclamé aussi sa démission.
Un témoignage recueilli par Jean-François Akili. Vikash Dorazo, désormais reconverti en politique, il est candidat à Paris sur la liste de la France Insoumise. La ministre des Sports a donc demandé au président de la Fédération de démissionner, ce que Didier Gayaguet n'a pas fait, même s'il a promis d'y réfléchir, car Cédric Guillou, Roxana Maracineanu n'a pas le pouvoir de le renvoyer.
Malgré son statut de plus haute instance de représentation du sport français, le ministère des Sports n'a aucun pouvoir de révoquer un président de fédération. Même s'il considère qu'un acte est contraire à la légalité, il ne peut en suspendre l'exécution. Jean-Christophe Breillat, spécialiste en droit du sport.
Les fédérations sont constituées sous forme d'associations de la loi de 1901 et en tant que telles, leurs dirigeants, dont le président, ne sont pas des fonctionnaires nommés et révoqués par l'État, mais sont des dirigeants donc élus, comme dans n'importe quelle association, par les membres qui, en l'occurrence, sont les clubs.
S'il ne peut pas débarquer un président de fédération, le ministère des Sports a quand même d'autres moyens de pression sur le plan juridique, comme le retrait de la délégation à une fédération. Les sportifs licenciés ne peuvent plus, dans ce cas, participer aux compétitions nationales et internationales. Autre menace de sanction, le retrait de l'agrément, ce qui signifie que la fédération et les clubs affiliés ne bénéficient plus des aides financières de l'État. Ces outils ne sont évidemment mis en œuvre que dans les cas les plus graves. Ce n'est arrivé que deux fois en France, en 1998 pour la Fédération française d'haltérophilie et en 2005 pour la Fédération française d'équitation.
Et ajoutons que Didier Gayaguet doit présider ce soir une réunion de la Fédération française de patinage.
Il est 7h04, Agnès, direction l'Iowa avec les premiers résultats de la primaire démocrate.
C'est dans ce petit état rural du Midwest, sous la neige en cette période de l'année, que démarre traditionnellement le processus de désignation du candidat démocrate à la présidentielle américaine. Les électeurs ont voté dans les 1700 bureaux ouverts pour l'occasion. Les résultats tardent à être collectés en raison d'un bug informatique. Grégory Philippe se trouve pour France Inter dans un bureau de vote au nord de Des Moines et là, les résultats sont tombés.
C'est le terrain de basket qui a été réquisitionné. Dans ce gymnase, environ 500 militants démocrates. Et la chef du bureau de vote évoque un scrutin capital qui permettra, dit-elle, de battre Donald Trump le 3 novembre. Puis, au signal, les électeurs se lèvent dans un joyeux brouhaha et rejoignent l'espace qui a été assigné au candidat à chaque coin de la salle de sport. Ainsi, on voit à l'œil nu que les supporters de Pete Buttigieg, 38 ans, ex-maire de South Bend, sont les plus nombreux à la grande joie de Suzanne.
Je trouve qu'il est le meilleur pour notre prochain président. Il est jeune, il a la pêche.
Puis, entre le premier et le deuxième tour, les capitaines d'équipe vont de groupe en groupe pour convaincre les indécis de les rejoindre. Et après 15 minutes de négociation, on procède à un nouveau décompte. Joe Biden se qualifie difficilement pour le deuxième tour. Il a, dans ce bureau, bien failli ne pas avoir les 15% de voix nécessaires. Bernie Sanders est troisième, Elizabeth Warren deuxième. Et Buttigieg confirme sa première place. Il a l'énergie de la jeunesse, reconnaît Marie, qui, elle, soutient l'ex-vice-président Biden. Mais je ne suis pas certaine que Buttigieg ait l'expérience nécessaire pour aller jusqu'au bout. Moi, j'aime Biden. La salle se vide sans attendre la proclamation des résultats. Il y avait du monde, mais moins qu'en 2008 pour la victoire d'Obama, croit se souvenir la patronne du bureau de vote. Des Moines, Grégory Phillips, France Info.
L'épidémie de coronavirus avec un second décès ce matin hors de Chine. Un homme de 39 ans est mort à Hong Kong. Il avait séjourné en janvier à Wuhan, foyer de l'épidémie. En Chine, le bilan continue de s'alourdir. 425 morts et plus de 20 000 personnes contaminées. La ville de Hangzhou vient d'être placée en quarantaine. En France, les autorités se veulent rassurantes. Il n'y a pas d'épidémie dans l'Hexagone, a déclaré hier le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.
Il n'y a aucun cas inexpliqué sur les territoires français, et c'est la même chose sur les territoires européens, c'est-à-dire que là où la diffusion virale se passe, c'est quand on ne comprend pas pourquoi il y a un cas et qu'on ne fait pas le lien avec un cas précédent. C'est évidemment pas la situation en Europe. Quand vous êtes un cas confirmé, on reprend toutes les personnes que vous avez croisées, donc on reprend votre agenda, et en sachant que le contact, comme je vous le rappelle, c'est un contact étroit et prolongé. C'est moins d'un mètre plusieurs minutes, donc ça n'arrive pas tous les jours. C'est quelqu'un qui est assis avec vous lors d'une réunion, c'est quelqu'un qui est dans la même chambre que vous ou qui partage une pièce fermée. Enfin voilà, c'est quand même pas si fréquent. Il n'y a pas d'épidémie en France, même pas de chaîne de transmission dans notre pays et aucune circulation du virus sur le territoire. Il n'y a donc aucune mesure particulière à prendre pour le grand public.
Aucune mesure particulière, si ce n'est, rappelons-le, et c'est valable pour la grippe et autres virus, se laver les mains souvent et éternuer dans sa manche, propos recueillis par Véronique Julia. 245 amendements examinés sur les 22 000 déposés. La bataille parlementaire sur la réforme des retraites a démarré lentement hier en commission. Et le co-rapporteur du texte, le centriste Nicolas Turquois, a dénoncé l'opposition de principe, y compris pour des mesures de solidarité unanimement reconnues comme la retraite minimale à 1 000 euros. Certains points peuvent et doivent être améliorés, reconnaissent des élus de la majorité, notamment en ce qui concerne, Hélène Filly, l'égalité homme-femme.
Le gouvernement a toujours affirmé que les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme. Mais l'opposition n'a pas manqué de remarquer que plusieurs cas types de salariés, femmes avec enfants, avaient disparu de l'étude d'impact définitive, se demandant si le système leur était finalement si favorable. En tout cas, les députés de la majorité eux-mêmes veulent faire plus. Le rapporteur général du texte l'affiche même comme l'une de ses priorités. Sur deux points, le divorce d'abord. Si le couple a eu des enfants, que la mère s'est arrêtée de travailler ou s'est mise à temps partiel, il y a un préjudice de carrière. La majorité proposera donc de partager les points acquis durant la vie conjugale au moment du divorce. Et puis sur la majoration de 5% par enfant, elle sera attribuée à l'un ou à l'autre ou partagée entre les deux. Le plus avantageux pour le couple sera de la donner à celui qui est le mieux rémunéré, l'homme le plus souvent. La majorité proposera donc un plancher pour les femmes. Elles seraient bénéficiaires d'au minimum la moitié de la majoration.
La grève contre le plan d'économie et les suppressions de postes est suspendu à Radio France. Décision prise en Assemblée Générale hier. Suspendu jusqu'au début du mois de mars. Le temps pour la direction et les syndicats de négocier. En bref, encore la mise en examen du groupe pharmaceutique Sanofi dans l'affaire de la Dépakine, cet antileptique responsable de malformations congénitales. Sanofi devra répondre de tromperies aggravées et blessures involontaires.
Il est 7h10, Agnès, c'est un virus qui ne s'attaque pas aux hommes mais aux tomates.
Son nom, le tobamovirus, ce pathogène, touche déjà les cultures en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. S'il arrive en France, gros producteur de tomates, il pourrait faire beaucoup de dégâts. L'ANSES met donc en garde les producteurs, les professionnels et les particuliers. Sophie Bécherel.
C'est en Israël et en Jordanie qu'il est apparu en premier, il y a 5 ans. Depuis, il s'est répandu sur plusieurs continents. Une fois qu'il a pénétré dans la tomate, le poivron ou l'aubergine, toute la plante est abîmée. Philippe Regnault, directeur de la santé du végétal à l'ANSES.
Fernandez.
Au niveau des feuilles, on va apercevoir des changements de couleur avec des marbrures ou des mosaïques qui vont faire alterner le vert normal de la chlorophylle et des plages plus jaunes. Et puis les fruits, non seulement ils vont être altérés dans leur forme, mais en plus ils vont posséder un aspect qui évoque une certaine rugosité tout à fait inadaptée à la commercialisation.
Sous serre, les tomates sont particulièrement vulnérables. En bio ou pas, la totalité de la production peut être perdue. Le virus se propage aussi par les semences. L'ANSES estime que le risque de voir arriver le virus en France est élevé. Il peut rester dormant, il n'existe aucun moyen de l'éradiquer, ni chimique ni naturel. Les potagers de particuliers comme les cultures professionnelles sont menacés, selon Philippe Regnault.
Le risque, il est double. On aurait des légumes qui seraient importés sur le territoire de l'Union à partir de pays tiers, hein, pour lesquels il n'y a pas de contraintes réglementaires. Mais il est possible que ces légumes arrivent sur le territoire en étant contaminés et en n'exprimant pas forcément de symptômes.
En cas de doute, c'est-à-dire si un légume suspect, taché et rugueux apparaît, la recommandation, c'est d'arracher les plants et de les brûler.
6 départements du nord et de l'est de la France placés en vigilance orange en raison des risques d'inondation. La Corse, elle est menacée par les vents violents de la tempête Hervé. La mort à 60 ans de David Kessler, ancien directeur de France Culture. Il avait dirigé la station du groupe Radio France entre 2005 et 2008. Il dirigeait depuis 5 ans la division contenu de l'opérateur de télécom Orange.
À l'affiche demain au cinéma, Agnès, La Cravate, documentaire sur le Front National.
Documentaire signé du duo Étienne Chailloux-Mathias Théry, à qui l'on doit La Sociologue et l'Ourson, tourné en plein débat sur le mariage pour tous. Cette fois, les deux documentalistes ont choisi de suivre un jeune militant picard, Bastien. Eva Béton.
Il n'y a pas de scoop. Le film pourtant est passionnant. Portrait de Bastien, 20 ans, militant dans la Somme du Front National, tendance dédiabolisation, pendant les présidentielles de 2017. Cela doit beaucoup au dispositif. Un documentaire aux accents de roman. On suit Bastien et une voix off très écrite commente. Ce n'est pas une coquetterie. Mathias Théry.
Un parti politique, et le FN en particulier à cette période-là, ne fait que de la com. Et donc si on ne se contente que de montrer ce qui nous donne à voir, on devient juste le haut-parleur de quelque chose qui est maîtrisé par le parti. Et il fallait que nous puissions regarder tout ça avec beaucoup de distance.
On voit le langage contrôlé, l'allure jeune cadre et le professionnalisme. Une poignée de militants prépare les ouvriers de l'usine Whirlpool en grève à bien accueillir Marine Le Pen.
Ils vont s'assurer de la sympathie des ouvriers en disant qu'ils sont du même bord. En même temps, ils prennent la place des ouvriers devant les caméras pour prendre la parole à leur place. C'est un travail millimétré. Et on est dans les coulisses de ce travail-là.
Bastien sourit souvent, mais il a un passé chargé. Le film est un portrait intime, mais surtout, il est construit comme un dialogue.
Bastien nous dit « C'est la première fois avec ce film que je discute aussi longuement avec des gens qui ne pensent pas comme moi. » Et avant, les discussions que j'avais avec les gens qui ne pensaient pas comme moi se résumaient à des insultes qui me renforçaient dans ma position.
Établir un dialogue, la réussite du film est là.
Et l'interview du documentariste Mathias Théry est à lire en longueur sur franceinter.fr.
Merci Agnès Soubiran.